Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, on va interroger l'extension de l'État. On ne se débarrassera pas de l'État. Notre seul espoir, c'est de le domestiquer, disait notre invité dans Libération à l'occasion de la sortie de son précédent essai, Homo Domesticus. Dans un livre de 1998, enfin traduit en France, Seeing Like a State, l'œil de l'État, qui paraît cette semaine à la découverte, James C. Scott poursuit sa réflexion sur les États modernes et la relation qu'ils entretiennent avec les communautés qu'ils abritent, qu'ils encadrent et qu'ils gouvernent. Professeur émérite de sciences politiques à l'université de Yale, cette figure majeure de l'anthropologie qui se dit anarchiste dans la famille de Pierre Clast ou de David Graeber, récemment disparu, explore depuis les années 70 les rapports de domination et les formes de résistance politique inventées par les sociétés rurales et montagnardes. Bonjour à vous, James C. Scott.
I'm pleased to be here.
Plaisir d'être ici.
Vous êtes avec nous en direct de New York, ou plutôt à 40 km de New York, de la ferme où vous habitez. On vous remercie de vous être levé si tôt pour pouvoir parler directement avec les auditeurs de France Culture. Bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein.
Bonjour.
Bonjour. Ce livre, James C. Scott, est le fruit, écrivez-vous, d'un détour intellectuel si étourdissant que j'ai fini par en abandonner l'itinéraire initial. Au départ, vous vouliez, racontez-vous, comprendre pourquoi l'État a toujours été l'ennemi de ceux qui ne tiennent pas en place. Pouvez-vous nous raconter maintenant pourquoi vous avez à un moment bifurqué, changé d'idée en cours de route, avant d'atteindre cette destination de départ ?
Le détour a commencé lorsque j'ai constaté que mon objectif initial, qui était de comprendre pourquoi l'État était toujours, comme vous le dites, l'ennemi de ceux qui ne peuvent pas rester en place, les vagabonds, les communautés pastorales, les tziganes et autres, ça c'était mon point de départ et il m'avait semblé qu'il y avait quelque chose dans l'État qui détestait ceux justement qui avaient la bougeotte et je m'intéressais aux habitants des collines dans en Asie du Sud-Est qui avaient une espèce d'agriculture nomade. Alors je voulais écrire un livre sur ces communautés d'Asie du Sud-Est, et c'est devenu un livre d'ailleurs, Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné. Et ce faisant, j'ai constaté que tous ces efforts déployés pour empêcher les gens de se déplacer, de leur donner des noms fixes, des adresses fixes, s'inscrivaient dans un projet de l'État qui était plus large, qui allait au-delà de la simple volonté d'empêcher les vagabonds et les communautés pastorales de se déplacer. J'ai essayé de comprendre comment l'État voyait sa population, et c'est l'objet de ce livre.
Dans l'œil de l'État, vous démontrez pourquoi des projets au départ plutôt bien intentionnés, visant à améliorer la condition humaine, ont pu se terminer en échec absolument désastreux, ce sont vos mots. Vous montrez et vous tendez à expliquer cette logique qui souligne la faillite de quelques-unes des plus grandes utopies d'ingénierie sociale du XXe siècle. Voilà, à sa sortie, le livre a vraiment marqué les esprits aux États-Unis. Une critique magistrale de la planification sociale descendante, disait notamment l'une des critiques du New York Times. Un ouvrage qui est à la fois un ouvrage d'histoire, ou plutôt une sorte de contre-histoire des États, puisque vous montrez encore à travers ces lignes que l'État n'a pas toujours été la norme. Si je reprends, James C. Scott, le titre français, l'œil de l'État, cet œil de l'État, comment vous le décririez? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que vous diriez que c'est un regard curieux, mais pas si bien intentionné?
Je pense que la meilleure façon de comprendre l'œil de l'État, c'est de donner des exemples. L'un des exemples que j'évoque au début du livre, c'est l'invention de la sylviculture scientifique, qui est une invention allemande, mais également adoptée par les Français. Il s'agissait de maximiser la rentabilité économique des forêts domaniales, ça s'appelait la science camérale à l'époque, et l'objet de cette science, c'était de définir, d'identifier, de quantifier la quantité de bois que l'on pouvait extraire d'une forêt pour ensuite le revendre. Donc c'était une démarche, disons, financière. Et le résultat de tout cela, ça n'a pas été simplement que de quantifier la forêt en termes économiques, mais à terme, cela a transformé la forêt. Pourquoi ? Parce qu'après après avoir abattu les premiers arbres, on a essayé de voir quels arbres repoussaient le plus vite et présentaient la meilleure rentabilité en termes de justement de bois de coupe qui pouvait en être extrait. Et de ce fait, vous avez des forêts uniformes qui présentaient toute la même essence, mais à terme, c'était une catastrophe écologique pour la forêt. Pourquoi ? Parce que l'État voyait la forêt d'un seul œil, disons, avec cette vue très étroite, cyclopique, à travers uniquement le prisme économique, sans constater la complexité écologique de la forêt. Et les résultats constatés en Allemagne, c'était ce qu'ils appellent la Waldsterben, la mort de la forêt, et suivi d'un effort de restaurer la vie écologique de la forêt. Mais cette vue étroite qui ne considérait qu'un seul objectif, une seule chose, un seul résultat, d'une donnée qui était, en l'occurrence, un phénomène naturel qui était la forêt.
Voilà, alors vous le dites, la forêt, et c'est pour ça que vous repartez de cet exemple, hein, la sylviculture n'a été vue à ce moment-là, cette exploitation des forêts, que par le prisme marchand et fiscal, avec cette vision quantitative et administrative des choses. Donc, à vous lire, on pourrait dire que cet œil de l'État, hein, une fois encore pour reprendre le titre français de votre ouvrage, James C. Scott, ce regard, cet œil est omniprésent, omniscient, mais aussi obnubilé, hein, par la quantité, par la mesure. L'État, à l'instar de ce que l'homme a fait aux forêts, a aujourd'hui encore l'État moderne besoin de tout voir, tout savoir, tout mesurer, tout quantifier. Pourquoi ? Pour tout contrôler ?
Alors, pas simplement pour tout contrôler. Et d'ailleurs,
when we think of the effort,
quand on pense à toute cette démarche de l'État à agréger l'information pour essayer de concevoir son territoire de manière plus efficace. Alors évidemment, il y a la question des origines ethniques, des métiers. Enfin, si l'on veut par exemple dispenser des services à la population, notamment une forme d'assistance sociale, il faut que l'État dispose d'un cliché statistique, une cartographie des besoins, des nécessités à travers le pays. Et donc là, l'œil de l'État mesure en quelque sorte la capacité qu'a l'État de faire différentes choses. Il y a certaines choses que l'on peut approuver et d'autres que nous désapprouverions. Par exemple, au début du siècle, aux États-Unis, mais également un peu partout en Europe, il y avait ce projet d'eugénisme qui consistait à éliminer de la population les êtres qui étaient considérés comme intellectuellement inférieurs ou qui présentaient des défauts génétiques à la naissance. Cette démarche avait besoin, pour ce faire, d'une espèce de topographie de la population. Je décris une histoire des patronymes, des noms de famille en France. Hein, ces noms qui définissent l'identité légale des personnes. Hein, c'est comme ça que les êtres existent. Donc, si vous faites arrêter dans la rue, on vous demande vos papiers, pour des raisons, je ne sais pas, d'excès de vitesse ou que sais-je, la première chose que vous demandera le policier, ce sera donc vos papiers. Et cela indique très clairement que pour l'État, ce qui compte, c'est le document officiel, l'identité.
l'œil de l'État, moderniser, uniformiser, détruire. Moderniser, on a commencé à comprendre cette idée aussi que l'État veut rendre lisible la société, que l'État veut rendre lisible les hiéroglyphes des pratiques locales, comme vous les appelez, James C. Scott. Pourquoi uniformiser? Quand vous parlez de l'uniformisation de nos vies, en quoi? Est-ce que vous auriez un exemple?
I'm sorry, I didn't quite follow the question.
Vous évoquez dans cette action de l'État, dans cet œil de l'État, trois pans de cette action. Moderniser, uniformiser et détruire, c'est le sous-titre de votre livre. Vous pouvez nous donner un exemple d'uniformisation de nos vies par les États?
A standardized what? Life.
Une vie standardisée, une vie normalisée.
I'm not quite sure what you intend by the question.
Je ne suis pas absolument sûr de l'objet de la question, mais
I'm sorry, could you rephrase it for me?
Pouvez-vous reformuler la question, s'il vous plaît?
On va entrer plutôt, on va continuer à avancer. Vous dites que l'État veut rendre lisible la société, hein, qu'il a tenté de mettre en place des mesures aussi de simplification. Et vous racontez aussi, c'est une partie importante de cet ouvrage, qu'il surgit aujourd'hui un chaînon manquant, un savoir-faire pratique qui a été détrôné par le savoir scientifique. C'est ce que vous appelez l'amétis, une notion que vous avez emprunté à Jean-Pierre Vernant. On l'écoute à sujet en 1978.
On peut dire que c'est l'intelligence animale, mais c'est surtout l'intelligence pratique, c'est-à-dire la roublardise. Mais les animaux, ce sont les animaux tels que les hommes les voient, en quelque sorte, pour justifier ce type d'intelligence. Le grec vit dans un temps, si vous voulez, dont l'avenir est défini comme obscur, imprévisible. La vision de l'homme est très limitée. Et alors, l'amétis, c'est ce moyen que possèdent certains individus particulièrement astucieux de prévoir à l'avance ce qui va se passer et par conséquent de décevoir leur adversaire, quel qu'il soit. Cette notion de l'intelligence, elle a été centrale dans la pensée sociale et religieuse de l'archaïsme grec. La métis archaïque, comme celle des animaux, c'était l'intelligence du fluide, du fluent, de l'insaisissable, du déroutant, du jamais le même. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on aperçoit, c'est une série d'interrogations qui reviennent par un détour à ce qu'était la métisse ancienne. Et on se demande s'il n'est pas nécessaire de rendre beaucoup plus fluide et souple un certain nombre de nos catégories intellectuelles.
Vous avez repris en partie ce concept de la métisse, oui, de James C. Scott. Vous avez repris en partie ce concept de la métisse de Jean-Pierre Vernant. Pourquoi?
Oui, cette notion de métisse, donc c'est un terme grec qu'on appelle justement la roublardise, comme on l'a dit. Hein, c'est effectivement cette forme d'intelligence astucieuse. On pourrait plutôt parler d'une forme de sagesse née de la pratique et de l'expérience. Par exemple, les choses que l'on ne peut pas apprendre dans un livre, par exemple, on ne peut pas apprendre à faire du vélo en lisant un traité sur la conduite de la bicyclette. Il faut effectivement en faire l'expérience pratique, trouver son équilibre, etc. Et toutes les activités humaines font intervenir une forme de métisme même pour le travail, de bureau. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que cette sagesse, savoir-faire pratique née de l'expérience. Je ne sais pas, lorsqu'on pêche à la ligne, je ne sais pas, c'est un sport. Et d'ailleurs, il y a des activités qui se font en équipe. Il y a tout le travail de cohésion d'équipe. Et ça, on ne peut pas le faire sans y intégrer justement cette notion d'expérience pratique. Et cette expérience pratique est essentielle parce qu'elle incarne, disons, une forme de connaissance, de savoir sur l'environnement, sur les relations humaines. Je vous donne un exemple. Sa tentative de moderniser l'agriculture dans le tiers-monde, le monde occidental, et notamment les colonisateurs français et britanniques, avaient leur propre idée de ce qu'était l'agriculture moderne et scientifique. Et les agriculteurs, je ne sais pas, ghanéens ou sénégalais, étaient considérés comme étant, je ne sais pas, désordonnés, n'étaient donc ni modernes, ni productifs, ni efficaces, aux yeux des colons, donc, et il a été décidé de les convertir à la monoculture, mais ça a été un échec cuisant jusqu'à ce qu'un travail scientifique ait réussi à démontrer que le désordre apparent qui régnait dans les champs était en réalité une forme d'ordre très efficace, très empirique, très puissant. Et donc, l'une des caractéristiques de l'État moderne est de considérer justement le modernisme comme étant, je ne sais pas, quelque chose de visuel. Il fallait que les choses aient l'air modernes, aient l'air efficaces. Alors, les intestins d'un lapin sont quelque chose d'extrêmement, disons, qui a l'air désordonné, mais en fait, c'est un appareil digestif extrêmement efficace. Et je sais qu'aux heures de grande écoute, France Culture peut paraître extrêmement désordonné. Pourtant, France Culture fait très bien son travail. Alors, cette confusion entre l'ordre visuel, apparent, superficiel, cette confusion entre cela et le modernisme efficace semble être l'une des grandes erreurs de l'État.
Voilà, vous parlez de l'État moderne, hein, mais il faut bien comprendre, et vous le soulignez, vous prenez bien soin d'éviter le terme traditionnel. Hein. La métisse, ce ne sont pas des savoirs traditionnels, mais bien un savoir-faire, un savoir pratique. La métisse, pourquoi ce savoir-faire-là a été systématiquement dénigré, rabaissé?
Eh bien, à mon avis, c'est parce que cette forme de sagesse ne se prête pas aux injonctions centralisées. Je donne un autre exemple, tiré de l'histoire de France, le code rural de Napoléon. Alors, ce qu'on avait essayé de faire à l'époque, c'était effectivement une démarche de Napoléon. Ce qui était souhaité, c'est de comprendre le système de propriété foncière dans les villages français et de voir, de domestiquer en quelque sorte la pratique locale dans chacun des villages de France. Mais en pratique, cela aurait signifié d'avoir dans chaque département de France des règlements différents sur la propriété foncière. Et évidemment, un tel système ne pourrait pas être géré de manière centrale par le préfet ou encore moins par le ministère de l'Agriculture. Alors, d'où est venue cette idée d'avoir un système uniforme de propriété foncière dans tout le territoire français? Alors, la démarche initiale consistait à réintégrer dans le droit français le métis local. Mais il y avait cette volonté d'avoir une vision synoptique centralisée de l'agriculture française et de ce développement. Et pour cela, il fallait une loi uniforme pour toute la France, qu'il s'agisse de la Bretagne, du Languedoc ou que sais-je.
Dans l'œil de l'État, moderniser, uniformiser, détruire, traduit de l'anglais par Olivier Ruchet, James C. Scott, vous montrez comment cette forme d'ingénierie rationnelle et globale s'est surtout imposée durant le XXe siècle avec une Première Guerre mondiale qui a constitué peut-être le point d'orgue de l'influence politique de ces planificateurs sur nos vies avec une large gamme de modernisateurs de Lénine, Trotsky, Le Corbusier, de ces villes comme Brasilia qui sont peut-être cet exemple de planification de rationalisation le plus évident et le plus apparent. Et comment aussi, à travers cette pensée, ce savoir scientifique, la métisse a été mise à mal. James C. Scott, vous êtes notre invité jusqu'à 13h30. Il est 13h15 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
pourquoi il est important de vous lire et de vous relire aujourd'hui, James C. Scott. L'œil de l'État, c'est un livre qui prend place entre Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné, et Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États. C'est un livre que vous avez écrit et publié il y a 20 ans aux États-Unis, écrit avant que la crise climatique devienne un sujet de premier plan, avant le 11 septembre, avant la crise financière de 2008 et avant la pandémie actuelle. On voit dans toutes ces crises le rôle immense pris par les États. Et pourtant, il peut être lu, ce livre, comme un plaidoyer, écrivez-vous, comme un plaidoyer contre l'impérialisme homoderniste de l'ordre social planifié. Ce sont vos mots. En quoi ce plaidoyer est-il toujours, ou plus encore, plus que jamais d'actualité, James C. Scott?
Disons que l'une des façons de comprendre le phénomène de consolidation étatique, c'est de voir, de comprendre la façon dont la première colonie constitue déjà une espèce de mini-nation. Autrement dit, l'État doit conquérir la nation et l'uniformiser pour pouvoir justement la gouverner avec une seule administration centrale. Alors, une telle démarche présente ses avantages, les réalisations de la Révolution française, la création du citoyen libre qui est sujet aux mêmes lois partout dans le pays. Bon, là, ça constitue effectivement un pas immense, une véritable émancipation. Mais, par ailleurs, vous avez d'un côté un citoyen qui est le même avec les mêmes droits partout, mais également les mêmes devoirs, et notamment l'obligation de servir dans l'armée de Napoléon et donc une mobilisation massive de la population à des fins d'invasion militaire. Donc, la création de la citoyenneté est une réalisation ambiguë. Elle est, évidemment, elle constitue une émancipation, puisqu'il y a des droits du citoyen qui vont avec, et vous avez une relation directe pour la première fois depuis le féodalisme, une relation entre l'État et chaque citoyen et qui oblige chaque citoyen. Et donc, il faut bien comprendre cette ambiguïté.
Aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'il faut tenter de supprimer les États? Est-ce que, parce que ce livre est quand même un plaidoyer très critique sur les formes modernes de l'État, est-ce qu'il faut tenter de se débarrasser de cette institution?
Écoutez, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait un bref éloge de l'anarchie. Et j'ai dit très clairement dans ce livre que, à mon sens, il ne s'agit pas d'éliminer l'État. Par contre, la question est de savoir si l'on peut domestiquer l'État. Ce sera la nuance que j'apporterai à ma réflexion. Et ça, ce sera un projet démocratique. Et alors, je ne suis pas très optimiste à ce sujet, mais je pense que c'est la seule solution viable. Ce que j'ajouterais par rapport à cela, c'est que, et nous l'avons compris pendant justement la pandémie que vous évoquez, la logique qui sous-tend la vaccination, les mesures de santé publique, ont besoin de l'État. Ont besoin de l'État pour assurer ce service. Donc, d'un côté, vous avez les avantages, si vous voulez, disons, autoritaires de l'État qui consiste à justement bloquer ou arrêter l'épidémie. Et je ferai l'analogie avec les Indiens d'Amérique qui, lorsqu'elles étaient en guerre contre d'autres tribus, ces tribus élisaient un chef de guerre qui avait un pouvoir absolu pendant la durée de la guerre, mais juste après la guerre, ce chef était dépouillés symboliquement de toutes ces plumes de guerriers et étaient relégués à une tente au fond de la tribu où chacun se moquait de lui pour le ramener en quelque sorte à la terre. Et alors, la crise, est-ce qui justifie temporairement le besoin d'une autocratie, mais il y avait chez les Indiens une procédure aussi bien pour créer cette autocratie, mais également pour la démanteler lorsqu'elle n'en était pas l'usage, parce que ça n'était pas la forme courante de gouvernement. Alors, cette pandémie nécessite un État fort, un État puissant pour gérer le problème, mais ce pouvoir doit être limité, borné, limité donc à cette fin bien spécifique.
Quelle place lui donner à cet État, le domestiquer, disiez-vous à l'instant, James C. Scott. Je vous propose d'écouter les mots du philosophe Pierre Dardot. Il est le co-auteur avec Christian Laval de Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle. Il parle, lui, de cette souveraineté des États-nations qui constitue, par certains aspects, un obstacle aujourd'hui. Alors comment faire ?
La souveraineté de l'État-nation représente, de notre point de vue, un obstacle, justement, à l'affrontement des questions qui sont posées à l'humanité aujourd'hui, notamment en relation avec la question climatique. Et donc, je crois qu'il faut plutôt penser à quelque chose qui procéderait à la fois un débordement par en haut et par en bas de l'État-nation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, par principe, contre l'existence de l'État, mais nous sommes anti-étatistes. Nous considérons que l'État n'est pas le centre de la société. Nous considérons, par conséquent, que les communs, les expériences de communs, aussi locales soient-elles, ont quelque chose de très important à dire sur la façon dont la société doit être réorganisée. Mais en même temps, les communs locaux ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut à la fois l'échelon local, et en même temps, il faut être capable de dépasser l'organisation étatique nationale par en haut. C'est-à-dire par des alliances qui sont des alliances transnationales. Alors ça, c'est très important.
Voilà, il parle, Pierre Dardot, à partir de l'expérience des communs, ce débordement par le haut et par le bas, James C. Scott. Est-ce qu'il vous paraît envisageable aujourd'hui ?
Oui, et justement, l'exemple de la crise climatique est un bel exemple. C'est exactement ce genre de situation qui nécessite une alliance entre États souverains, des alliances transnationales. Et d'aucuns estiment que ce dont on a besoin, c'est une véritable dictature climatique, c'est une espèce de fascisme écologique. Qualifié comme tel dans certains cercles. Alors ça, une telle démarche serait vouée à l'échec en raison précisément de la réaction d'opposition à une telle approche totalitaire. Mais la seule chose que nous puissions espérer, c'est que cette crise qui prend de l'ampleur, la montée des niveaux de la mer, les phénomènes climatiques extrêmes, cette amplification de la crise vont créer une sensibilisation de la population et les gens seront prêts à concéder certains sacrifices en termes de mode de vie pour pouvoir maîtriser la crise climatique. Il me semble que dans la mesure où cette crise climatique est insidieuse, elle progresse très lentement, elle atteint peu à peu des paliers qui, eux, sont irréversibles. Et c'est ça qui est terrifiant par rapport au climat. Contrairement, par exemple, à, je ne sais pas, une intoxication qui toucherait un nombre limité de personnes dans un lieu limité. Là, vous avez une crise qui fait la une des journaux tout de suite. Alors que là, politiquement, c'est une crise beaucoup plus difficile à gérer parce que elle suppose des sacrifices aujourd'hui, des grands sacrifices, pour prévenir des phénomènes, des conséquences à long terme qui ne se sont pas encore manifestées, en tout cas pas dans les pays occidentaux.
Voilà, il y a la crise écologique et puis il y a la crise sanitaire. Alors avant de se quitter, on avait quand même envie de vous poser cette question. Est-ce que cette pandémie que nous vivons actuellement sera bientôt à classer au chapitre des échecs de l'État ? Vous reprenez dans ce livre, L'œil de l'État, l'exemple de la peste bubonique de 1665 et du livre de Daniel Defoe, Journal de l'année de la peste. Est-ce qu'à vos yeux, la métisse, ce savoir-faire, James C. Scott, l'usage, l'expérience pourrait nous être d'un grand secours aujourd'hui ?
Well, what's interesting, of course.
Ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est que tout récemment, dans un ouvrage, justement, Homo Domesticus, que vous avez évoqué, dans cet ouvrage, j'essaie de comprendre un peu les débuts de l'agriculture en Mésopotamie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apparition des grandes colonies de peuplement avec des animaux domestiqués ont créé les épizooties. Et d'où la COVID-19 est apparue aussi aujourd'hui. Alors à l'époque, on ne comprenait pas cette notion de virus, parce que le virus, il faut un microscope pour le voir, mais ces populations comprenaient la logique de la transmission et la nécessité de confiner une ville dès lors qu'une épidémie se déclarait. Et donc, il y avait évidemment la nécessité de se protéger et en Mésopotamie, donc c'était il y a 6 000, 7 000 ans déjà, on comprenait ces concepts. Hein, vous aviez une armée de conquête qui revenait dans sa ville et qui était obligée de s'arrêter à 30 km de la ville, de brûler tous les vêtements uniformes avant de pouvoir intégrer la ville, parce que on pensait que ces armées portaient avec elles des maladies attrapées dans ces contrées très lointaine. Et donc, alors, cette logique de traitement de l'épidémie remonte à il y a longtemps. Alors, le vaccin est une arme très récente contre les pandémies.
Voilà ce que vous racontez et montrez dans ce livre, L'œil de l'État. En un mot, James C. Scott, quel serait pour vous le mot de cette crise sanitaire, celui qui restera? Grand confinement? Distanciation sociale, est-ce qu'il y a un mot qui vous a marqué, vous qui êtes aussi un amoureux du langage? James C. Scott.
Moi, je crois que c'est le désir de l'uniformité qui restera de cet épisode.
Voilà, ce sera la réponse à la question, celle qui était restée en suspens tout à l'heure. Un énorme merci à vous, James C. Scott, et merci beaucoup à Robert Wolfenstein qui a assuré la traduction de cet entretien. L'œil de l'État, votre essai de 98 est enfin traduit en France et il paraît à la découverte. Merci, merci beaucoup. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutiège Pérez pour la Grande Table des Idées, à Aurélien Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture. Merci à Madeleine Martineau et à nous Delphino. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Jean Guilain-Meige. Je dis rendez-vous demain à la même heure pour un retour sur une trajectoire intellectuelle, celle du Sénégalais Felwine Sarr, co-auteur d'un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, auteur d'Afrotopia. Il revient sur les lieux et les rencontres qui l'ont marqué dans un très beau carnet de voyage, La saveur des derniers mètres.